qu'un nom n'est comme le sien. Amen. Je suis rentré d'Asie centrale jeudi. Alors, je suis encore un petit peu, pas tout à fait là. Je n'ai pas eu autant de temps que je voulais pour préparer le message. Mais je vais vous poser la question ce matin, si vous étiez heureux. Et si on faisait un petit sondage dans la rue, et si on demandait aux gens qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez heureux, comme réponse, on aurait peut-être être en bonne santé, avoir un métier passionnant, avoir assez ou beaucoup d'argent pour vivre, habiter dans la région ou le pays de mes rêves, peut-être, qu'il n'y a plus de guerre nulle part. Et en fait, la Bible parle beaucoup de bonheur, du fait d'être heureux. Les mots « heureux », j'ai compté un petit peu « bénédiction »,« bonheur »,« être béni », ils sont nombreux dans la Bible, avec une concordance, si vous voulez vous amuser à chercher. J'en ai moins compté, je n'ai pas tout compté, mais j'ai compté au moins 256 fois les mots « bénédiction »,« bonheur »,« être béni ». Si on ajoute les formes verbales, ça fait beaucoup plus. J'aimerais lire avec vous ce matin un passage, un psaume, qui parle justement du bonheur selon Dieu. C'est important de faire cette précision, parce que le bonheur selon Dieu, ce n'est pas forcément le bonheur selon comment nous on l'envisage. Et donc on lira le psaume 1, que si on arrive bien l'afficher pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux. Donc c'est un psaume très connu, hein, le psaume 1. Alors, psaume 1 qui nous dit « Heureux ou béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » On pourrait donner comme titre, je ne suis pas un spécialiste des titres, mais à ce moment, « Le sentier du juste, un chemin exigeant, mais béni. » Le sentier du juste, un chemin exigeant, mais béni. Donc tout de suite, on voit qu'il y a une catégorie de personnes dans le psaume premier dont la vie n'a pas vraiment de sens. Même la fin de la vie est même un désastre. La Bible parle des pécheurs, des méchants. Et au contraire, il y a une deuxième catégorie de personnes qui, elle, fait peut-être envie, qui est bénie. Et ces personnes qui sont bénies, ce sont les justes. Et donc invités à être ces personnes. Et la Bible, le psaume 1, décrit le juste, non pas dans sa position devant Dieu, justifié par grâce, mais dans sa façon de vivre. Donc le psaume 1 nous dit que Dieu ne reconnaît que deux communautés de personnes sur terre, les justes et les méchants, qui sont appelés aussi les moqueurs, les pécheurs. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de situation intermédiaire. Soit on fait partie des justes, soit on fait partie des méchants. Alors, le sens courant de la méchanceté, quand on entend ce terme, c'est faire volontairement le mal, c'est être dur, être cruel, contrairement à d'être bon, d'être humain. C'est le sens courant en français de la méchanceté. Mais dans la Bible, le méchant, c'est ça, mais c'est plus que ça. C'est une personne qui offense Dieu, qui vit comme si Dieu n'existait pas, qui méprise sa sagesse et ses instructions, sans pour autant être dur ou cruel. C'est-à-dire qu'il y a des méchants qui sont gentils, mais aux yeux de Dieu, voilà. Les méchants aussi répandent. Je dis ça parce que ça a un lien avec la suite, hein, ce n'est pas pour faire un... ils répandent aussi des idées et des modes de pensée impies. Les médias nous abreuvent de pensées impies. Et le juste, donc, c'est la catégorie de personnes qui, dans ce psaume, est bénie. Ce sont ceux qui sont fidèles à Dieu, à sa parole, qui honorent Dieu par leur conduite et par leur foi, et qui, chaque fois que c'est nécessaire, confessent leurs péchés et reconnaissent leurs péchés. Donc le psaume nous montre deux catégories de personnes. Vous devez voir dans quelle catégorie 99% de gens ici dans cette salle font partie de la bonne catégorie, je vais dire. Je ne sais pas. La deuxième chose, c'est que les justes et les méchants, donc une manière de vivre et une destinée qui est différente. Et contrairement à celle des méchants ou des pécheurs, la vie du juste est bénie par l'Éternel et elle prospère. La vie du juste est bénie et prospère. Et le psaume décrit le juste donc sous quatre aspects, sous quatre angles, que j'aimerais rapidement voir avec vous ce matin. C'est la relation du juste avec le monde qui l'entoure, sa relation à la parole de Dieu, la qualité de sa vie et sa destinée finale. Alors, la relation du juste avec le monde qui l'entoure, nous l'avons au verset 1. Il nous est dit, on peut le relire, que le juste ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le juste est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Le juste se sépare du mal qui l'entoure autant que possible. Il se sépare du mal, mais pas des gens. C'est important, ça. On ne va pas nous s'isoler dans un monastère pour ne voir plus personne. On vit au milieu des autres, mais en n'adoptant pas, si possible, et par la grâce de Dieu, leur mauvaise conduite, comme Jésus le faisait. Il est dit que Jésus, il était séparé des pécheurs, mais il passait du temps avec eux. Il prenait du temps avec eux. Il ne les, bien sûr, ne les repoussait pas. Il ne mettrait pas dehors celui qui vient à moi. Alors, il y a des choses que, effectivement, le juste ne fait pas. On est dans une société où tout est permis, mais il y a des choses que le juste ne fait pas. Trois fois, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est que les valeurs morales de la société sont changeantes, hein, au fil des évolutions de la société. Mais le juste, lui, reste attaché au bien. Il ne se laisse pas autant que possible, bien sûr, c'est pas si facile que ça, hein, influencé par la philosophie du monde. Il essaie de ne pas prendre le péché à la légère. Par exemple, Pierre dit aussi cela dans 2 Pierre 3, verset 17. Si Henri, tu veux l'afficher, parce que je n'ai pas eu le temps, excusez-moi, de faire un PowerPoint. 2 Pierre 3, 17. Tu peux l'afficher rapidement, Henri, non? Ah, voilà. Pardon. Voilà, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Entraîné par l'égarement des impies. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, le juste, et il ne s'arrête pas non plus sur la voie des pécheurs. Le juste ne doit pas participer au péché d'autrui. Il essaye de ne pas se mettre inutilement dans des situations où il serait exposé à la tentation. Sur Internet, par exemple, ou à la télévision ou ailleurs. La Bible dit qu'on est lumière dans le Seigneur. Autrefois, on était ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière et nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et il ne s'assied pas non plus en compagnie des moqueurs. Là encore, il ne s'agit pas de ne pas fréquenter les incroyants, c'est sûr. S'asseoir en compagnie des moqueurs, ça semble vouloir dire prendre plaisir à ce qu'ils font. Quand on s'assoit à la table avec quelqu'un, on peut le faire pour de différentes raisons, pour partager un repas, mais aussi parce qu'on est, on est bien dans leur présence. Ça peut vouloir dire vouloir faire partie de leur groupe, avoir envie de faire partie de leur groupe. Je ne sais pas si c'est une tentation en tant que chrétien de, comme on dit, se sent parfois seul, de vouloir faire partie du groupe, d'être tout le temps rejeté, ou le chrétien, là, c'est parfois tentant de vouloir, on va aller un petit coup avec eux pour faire baisser la pression, mais on doit partager leurs valeurs, leurs mauvais projets, le juste ne fait pas cela. En tant que croyant, on fait partie d'une autre communauté, celle des enfants de Dieu. Et ces trois attitudes de séparation du mal, je ne sais pas comment vous le vivez, mais demande de la détermination. On peut prendre comme exemple Daniel, par exemple, dans le livre qui porte son nom, le livre de Daniel. À ce sujet, il nous est dit que Daniel, exilé à Babylone, dès le début, on lui a présenté les mets et le vin du roi, et il nous a dit que Daniel résolut dans son cœur, ou prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats et les mets du roi. Alors bien sûr, pour nous, on ne se souille pas ni en mangeant ni en buvant, mais si on transpose ça dans notre milieu, il nous faut de la détermination, il nous faut de la... pour ne pas faire toutes ces choses. Ça souligne un aspect de la difficulté de la vie chrétienne, tout le temps où on n'est pas à l'église. Ce matin, on n'a pas de problème. On n'est pas trop tenté, je pense, par quoi que ce soit. On est en compagnie de frères et sœurs, c'est beau. Et on est, comme disait Eric tout à l'heure, c'est des moments où on est fortifié, où le Seigneur nous fait du bien, au travers les uns des autres. Mais on n'est pas toujours dans l'église. Le temps qu'on est à l'église, c'est une petite partie du temps de notre vie. Et pendant qu'on n'est pas à l'église, eh bien on suit un certain chemin, le chemin qui nous est proposé dans le psaume 1, mais qui a aussi un parallèle dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. C'est un passage que vous connaissez très bien, c'est Jésus lui-même qui a dit qu'il y a aussi deux chemins. Et il a dit que le chemin est étroit et est resserré, le chemin qui mène à la vie. Il y a un chemin large par lequel tout le monde passe. Tout le monde prend ce chemin, la porte est large aussi. Mais il y a par contre un chemin étroit, resserré. Et je me suis amusé à regarder, j'ai un bouquin chez moi où il y a le sens des mots grecs et puis leur sens pour des fois avoir une idée un petit peu plus précise. Et ce mot traduit par resserré et étroit, en fait, il a pour sens... Moi, je me disais, étroit, vous savez, quelqu'un qui est étroit d'esprit, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la liberté. Il a son mode de pensée, il ne réfléchit pas ni à droite ni à gauche. Ce n'est pas le sens de resserrer, c'est le sens de serrer, de presser, de comprimer. C'est-à-dire c'est un chemin où le juste peut être pressé, peut être comprimé, peut être serré. Il a été employé, par exemple, quand on dit « ma chaussure me blesse », une chaussure trop serrée, vous savez ce que ça fait, des fois, à force de marcher, on se blesse. Bien, le chemin du Seigneur, il est parfois comme ça. Il est resserré, on y sent des pressions, de l'oppression. Ça nous donne de la difficulté à avancer dans un chemin qui est serré. Des fois, c'est difficile de passer. Quand Jésus a dit « vous aurez des tribulations dans le monde », il dit, en fait, vous aurez des pressions dans le monde, vous aurez des oppressions. Mais il dit, ayez bon courage, car j'ai vaincu le monde. Donc le chrétien dans le monde, ce chrétien, ce sentier du juste, qui est décrit dans le psaume 1, et d'après le premier verset, c'est un sentier dans lequel il marche dans un milieu qui ne lui est pas favorable et dans lequel il subit des pressions et qui peut être blessé. Mais c'est un chemin dans lequel il connaît la bénédiction de Dieu. Et ce passage me fait du bien, parce que même si le chemin est difficile, eh bien Dieu bénit. Dieu bénit, ça ne veut pas dire tout est facile. Ça veut dire Dieu bénit dans la difficulté. Donc c'est la relation du juste avec le monde, donc voilà. Et puis la relation du juste avec la parole de Dieu. Alors, je passe vite, hein, excusez-moi. C'est le deuxième aspect de la vie du juste. Il est dit que, voilà, au verset 1, il ne fait pas ces trois choses, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Il y a un côté, on va dire, négatif et un côté positif de la vie du juste. Le côté négatif, on vient de l'aborder. Et maintenant, le côté positif, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Là, il dit que c'est la Torah, en fait, pour le juste. Ça veut dire la direction, instruction, enseignement. Les justes aiment la parole de Dieu. Ils y trouvent leur plaisir. On pourrait lire le psaume 119, une parole de David. Si vous prenez avec moi le psaume 119, verset 14, on voit les sentiments de David envers la Bible. Psaume 119, verset envers la. Pour lui, c'était la Torah, bien sûr, mais pour nous, c'est toute l'Écriture. Au psaume 119, verset 14. David dit : Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie pas ta parole. Voilà comment était David. Et puis aussi dans le psaume, au verset 97, il dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Alors, est-ce que nous aimons lire la Bible? Je sais que les chrétiens de longue date, ils aiment lire la Bible. Est-ce notre plaisir de lire la Bible? Est-ce qu'on aime y passer du temps? Est-ce qu'on aime la méditer pour y trouver une direction, instruction, réconfort, soutien? Il dit que le juste trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Méditer la parole de Dieu, c'est s'en imprégner. C'est... Moi, je trouve, je médite pas assez la parole, je la lis. Mais la méditer, c'est la repasser dans son cœur. C'est y penser, c'est se laisser imprégner par elle, c'est l'étudier. La parole, c'est un moyen de... Méditer la parole, c'est un moyen de plonger, d'y plonger nos regards, pour approfondir notre relation avec Dieu, pour étendre nos racines spirituelles, pour épuiser la vie. Elle permet aussi de nous corriger, vous savez, tout ça, nous réformer, et aussi de nous séparer de notre propre péché. C'est Jacques qui dit, hein, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, sera heureux dans son activité. Et puis aussi, c'est Marie, quand elle entendait tout ce qui était dit au sujet de Jésus, il est dit qu'elle gardait, elle repassait ces choses dans son cœur. Je trouve que je suis des fois trop rapide. Alors, j'ai une question. Combien de temps, les jeunes, vous avez passé dans l'étude l'année dernière, pour vos études, pour préparer vos examens? Je pense que vous avez été sérieux, et ça, je n'en doute pas un instant, vous y avez passé beaucoup de temps. Mais combien de temps est-ce qu'on passe à étudier la Bible et à la méditer? Dans un de ses livres, Frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, il raconte qu'en Union soviétique, au temps de l'Union soviétique, beaucoup de pasteurs n'avaient pas de Bible. Et un jour, en réponse aux prières, les courriers amènent des Bibles dans cette communauté, et cette communauté n'avait qu'une seule Bible. Et donc le pasteur était tellement heureux d'avoir enfin une Bible qu'il fait son sermon, et Frère André raconte qu'après le sermon, il descend de l'estrade et commence à déchirer sa Bible et à donner feuille par feuille sa Bible, une page, et pour qu'il puisse avoir au moins une page de la Bible pour la lire. Et ensuite, une fois qu'il l'avait lue, il donnait à l'autre, et ainsi de suite. Et c'était leur façon de lire la Bible. Et c'est encore le cas aujourd'hui, où on vit dans un pays d'abondance. Ce n'est pas le cas partout. On a le privilège, nous, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir des outils, des livres pour l'étudier. C'est merveilleux. Donc, profitons de cela. Faisons comme le juste qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et la conséquence de cela, une vie de séparation d'avec le mal, un amour pour la parole de Dieu, eh bien, ça a une conséquence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la Bible dit que le bonheur selon le monde, ce n'est pas la même chose que le bonheur selon Dieu. C'est qu'on pourrait dire que le bonheur, c'est comme une conséquence de cela. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la qualité de vie du juste, il connaît une vie stable. Il est comme un arbre. Vie stable, ce n'est pas forcément tranquille, mais c'est stable. Un arbre planté, ses racines ancrent solidement cet arbre dans la bonne terre de la parole de Dieu. Et à cause de ça, il peut, par grâce, bien traverser ce chemin resserré qui mène à la vie sans être désarçonné. Il porte du fruit, il a dit il donne son fruit en sa saison. Et le fruit que porte le juste n'est pas le sien, mais c'est celui que le Seigneur produit dans sa vie, parce qu'on demeure en Jésus-Christ comme le sarment qui ne peut porter du fruit qu'en communion avec le cep. Et puis on voit que son feuillage reste vert, il ne se flétrit point. Sa vitalité spirituelle, elle est renouvelée. Son feuillage, c'est l'image un peu du témoignage, hein, de l'eau qui abreuve, parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. C'est l'eau vivifiante les épreuves de la vie ne le dessèchent pas. Le juste qui suit ce chemin. Les épreuves de la vie ne le dessèchent pas. Alors, j'aimerais que, Henri, tu peux afficher le psaume 92 qui est magnifique. C'est trois versets du psaume 92. Il nous a dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et sont pleins de sève et verdoyants. Être plein de sève et verdoyant, c'est ce que Dieu nous propose si on suit ce chemin. Psaume 110, verset 7, il est dit « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » La force du Seigneur se renouvelle en nous, elle soutient le juste et donne du sens à la vie, une vie qui va dans la bonne direction. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais le psaume 1 ne parle pas de jugement pour le juste, contrairement au méchant qui dit qu'il ne résiste pas le jour du jugement, puisqu'il n'a rien à apporter devant Dieu. Sa vie est comme la balle, la paille, hein, que le vent dissipe. Avec autrefois, pour séparer le blé de la paille, on battait le grain, et ensuite on lançait en l'air, et le vent soufflait l'écorce pour garder le grain. Donc, la vie du pêcheur est une vie qui est triste. Par contre, il a dit, l'Éternel connaît la voie des justes. Il veille sur les justes. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé ne vient pas en jugement, dit Jésus. Et puis le juste prospère. Ah, ça, c'est... le juste prospère, tout ce qu'il fait lui réussit. Les doutes se lèvent dans les cœurs. C'est difficile d'avaler ça. Ah, moi, quand je dis, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, on dit toujours que pour avoir une idée juste d'un élément de la parole de Dieu, il faut le voir dans le contexte de toute la Bible. Donc, il faut mettre ce passage en relation avec tous les autres passages qui nous parlent de la vie du juste. Les psaumes, par exemple. Quand on lit les psaumes, eh bien, qu'est-ce que c'est les psaumes? Eh bien, c'est les circonstances, la vie, des difficultés, les prières des justes. Et qu'est-ce qu'on voit dans les psaumes? Ce n'est pas toujours des « Alléluia ». C'est souvent des plaintes, c'est souvent des intercessions, c'est souvent des découragements qui concernent les justes. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu bénit, on pourrait dire que Dieu bénit ce qui est fait en lui et avec lui. On a vu que le juste, il se sépare du mal. Il laisse la parole de Dieu l'imprégner. Donc, normalement, ses actions, ses pensées, ses projets sont faits en communion avec Dieu. Et donc, ça réussit, ce qui est fait avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que les justes ne connaissent pas l'échec ou les déboires, puisque beaucoup d'autres passages de la Bible nous montrent que ce n'est pas le cas. Et beaucoup de psaumes, sauf les psaumes de louange, hein, effectivement, nous parlent des épreuves des justes, et des épreuves parfois tellement profondes, du fond de l'abîme. « Je crie à toi, Éternel !» Des gens qui passent dans des dépressions profondes, mais qui sont quand même des justes. Peut-être pour nous aider, je citerai une parole de Nelson Mandela, parce que plusieurs connaissent Nelson Mandela, c'est un homme politique sud-africain qui a lutté en son temps contre la ségrégation, la mise à l'écart des gens de couleur en Afrique du Sud. Et puis Mandela dit quelque chose d'intéressant qui peut peut-être nous aider à comprendre ce verset. Ce n'est pas un verset, mais il a dit « Soit je réussis, soit j'apprends. » Soit je réussis, soit j'apprends. C'est peut-être bien de considérer notre vie comme ça. Soit on réussit, mais si on ne réussit pas, si on connaît l'échec, eh bien, on apprend. Et parce qu'on apprend de l'échec, eh bien, Dieu le permet, on est quand même béni. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça ne veut pas dire que le juste vit dans un succès constant, mais il connaît la bénédiction de Dieu. Même ses échecs et ses chutes sont... Dieu s'en sert pour nous apprendre le côté difficile de la vie a aussi son utilité. Et on le sait, Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Je terminerai par un verset qui peut aussi nous quand il dit le juste, tout ce qu'il fait lui réussit. Peut-être mettre ça en relation avec Romains 8, verset 28, où Paul dit, nous savons du reste que toutes choses concourent ou travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc on est invité par ce psaume à suivre ce chemin du juste, qui est un chemin béni, mais qui est aussi un chemin resserré, parfois, et de faire attention à ne pas entrer, spirituellement parlant, dans le chemin des pécheurs. Et en conclusion, je vais m'adresser aux personnes, dire dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez. C'est très important de savoir si je fais partie des justes ou si je fais partie des méchants. Et si je n'en suis pas sûr de quel côté je suis, il faut régler cette question. Il ne faut pas garder des doutes se disant de quel côté est-ce que je suis. Parce que c'est possible de changer de camp. Ce ne sont pas deux chemins, c'est ça qui est formidable, qui sont hermétiques. Mais si on se reconnaît pécheur, on peut devenir, par la grâce de Dieu, comme on l'a vu ce matin, injuste. Je laisse la place à notre frère.
Merci Jean-Pierre pour ces bonnes paroles. On va se quitter. Et avant de se quitter, nous allons entonner le premier chant, le chant du groupe Louange.